C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Bon, premier sujet pour les commissaires ce matin, c'est l'annonce par le gouvernement Trudeau de développer un programme national, donc à travers le Canada, d'alimentation pour les écoles, parce que les enfants doivent manger. Et là, le fédéral veut s'en occuper. Est-ce que c'est vraiment le rôle du fédéral, Nathalie?
Non, mais le programme en soi est une excellente idée. Puis c'est d'ailleurs, c'est dommage que les libéraux aient tardé pour concrétiser leur engagement, un engagement qui a été pris en 2019, réitéré en 2021. Et là, aujourd'hui, comme par hasard, au plus bas dans les intentions de vote, les libéraux confirment qu'ils veulent mettre de l'avant cette promesse, qui date d'un certain nombre d'années. Je dis que c'est une bonne nouvelle parce que c'est une bonne idée de s'assurer que nos enfants au pays n'aillent pas à l'école le ventre vide. Là, on parle d'un programme d'un milliard qui pourrait se déployer sur 5 ans, qui permettrait de nourrir 400 000 enfants de plus. Marquez qu'entre vous et moi, les enfants n'ont que faire des compétences entre le fédéral et le provincial, n'ont que faire des querelles entre Ottawa et les provinces sur ces enjeux. Et j'espère que cette volonté d'Ottawa d'en faire plus ne va pas se traduire par une guerre ouverte avec les provinces. Le Québec a déjà réagi en disant, écoutez, nous on est d'accord avec ça, mais on veut être compensé pour cette mesure compte tenu des efforts qu'on fait déjà en territoire québécois. C'est important parce que le Canada est le seul pays du G7 qui n'a pas de programme de ce type. Je lisais dans un rapport produit par l'UNICEF en 2023 que le Canada est l'un des 10 pays dont les taux de pauvreté infantile au sein des familles monoparentales dépassent 40%. C'est beaucoup trop. Et la priorité des priorités devrait être la lutter contre la faim, en particulier chez nos enfants. Et la liste des avantages liés au fait que des enfants se rendent à l'école le ventre plein est longue. Hein? La facilité de la concentration, c'est agréable à l'école lorsqu'on est capable, lorsqu'on ne souffre pas de la faim. Alors, c'est une excellente initiative qui arrive malheureusement un peu trop tard, mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais.
400 000 enfants à grandeur du Canada, ça fait 20 % pour le Québec, ça veut dire 80 000 enfants. 80 000 enfants, ça va être donc un programme mineur, donc ça va être beaucoup dans les communautés autochtones, puis dans certaines communautés particulièrement défavorisées. Et après, si tu regardes les chiffres, c'est 200 millions de dollars par année, 1 milliard sur 5 ans. L'IRIS avait sorti un programme qui évaluait combien ça allait coûter pour le Québec pour faire un programme alimentaire dans toutes les écoles. C'est 1,7 milliard par année. Fait que tu dis 200 millions pour tout le Canada versus 1,7 milliard pour le Québec. On comprend bien qu'il n'y a pas photo, là. Donc, c'est un programme de distribution aléatoire. Ben, pas aléatoire, mais qui va aller au plus urgent, mais c'est loin d'être un programme universel pour tous les enfants, là. Loin, loin, loin. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Certainement, c'est une bonne idée. Est-ce que c'est Québec qui aurait dû le faire? Peut-être. Québec a un programme qui permet à n'importe qui d'entrer dedans. Dans le sens où c'est écrit dans le programme lui-même que c'est des centres scolaires qui gèrent ça, puis que comme c'est pas suffisant, la contribution donnée par Québec, ils invitent les centres scolaires à demander l'aide des entreprises, des organismes de santé locaux, etc., etc., des municipalités. Donc, c'est built-in dans les programmes provinciaux que quelqu'un peut participer. Alors, là, le fédéral va simplement dire, ben moi, je vais participer. Tu sais, je vais donner à tel centre scolaire puis à tel organisme qui travaille dans tel centre scolaire. Je vois pas comment Québec va pouvoir s'opposer à ça.
Ça va être quoi, les conditions?
Ben voilà, c'est ça le problème. Quand tu gères par subvention, c'est très difficile de gérer par subvention. Premièrement, t'es pas capable de faire une adéquation juste entre les problèmes et les solutions. Tu donnes à un organisme, c'est l'organisme qui décide. Ensuite, t'as pas beaucoup de suivi de performance. Tu sais pas si le suivi de performance, est-ce que cet organisme-là recevait déjà de l'aide de Québec, reçoit déjà de l'aide d'une municipalité ou d'un financement privé. C'est vraiment la seule chose que tu peux faire, c'est retirer la subvention après quelques années si elle s'avère inopérante.
Le responsable des clubs des petits-déjeuners salue cette initiative. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec le gouvernement fédéral pour qu'on puisse avoir une mesure qui soit déployée à travers le pays. Tu poses la question, Paul, quelles seront les conditions? Ben, la condition des conditions, c'est certainement que l'aide aille aux enfants qui en ont le plus besoin, là. Parce qu'une des critiques qui est formulée par rapport à la gestion de ces programmes, parce qu'il y en a plusieurs là dans les provinces, c'est qu'il n'y a pas d'arrimage entre les organismes, même au Québec. Alors, il faudrait peut-être s'assurer effectivement que l'argent qui est dépensé soit bien dépensé. Faut dire que le fédéral a posé des gestes importants, des meilleurs outils, un des meilleurs leviers que le fédéral dispose pour lutter contre la pauvreté chez les enfants. C'est l'allocation canadienne pour les enfants. Elle a été depuis 2015 bonifiée, indexée, mais depuis 2021, malheureusement, la pauvreté chez les enfants a augmenté. Il y a peut-être un lien entre cette augmentation et le fait qu'on accueille davantage de demandeurs d'asile. Pour moi, il y a un lien entre les deux, d'autant que les demandeurs d'asile n'ont pas accès à l'allocation canadienne pour enfants. Maintenant, j'espère que ça ne donnera pas lieu à une guerre ouverte entre les provinces et le fédéral. J'insiste beaucoup là-dessus parce que on a besoin d'une... Tu dis là, que c'est pas beaucoup, là, 80 000 enfants de plus. Ben, c'est 80 000 enfants de plus actuellement. Le Club des petits déjeuners aide, si ma mémoire m'est fidèle, près de 80 000 enfants au Québec. Si on peut doubler le nombre d'enfants qui reçoivent à manger, je me dis bravo, bravo, le matin, ça c'est formidable.
Mais juste une question, là. Quand on parle d'aide alimentaire, moi j'ai toujours posé la question, OK, mais on parle de quoi, là? On parle de fournir le déjeuner, le petit déjeuner
non,
du matin.
Pas nécessairement.
Ça peut être le repas du midi.
Ça peut être une collation.
Peut-être une collation, mais c'est, je comprends que ça varie selon les écoles, les milieux et tout ça, mais il y a des parents qui me disent, OK, mais ça serait bien qu'on ait une idée plutôt que juste une promesse de dire on va garrocher 200 millions.
Ben, c'est parce que c'est justement ça, c'est de, une aide à un groupe ben, privé, social privé, là, communautaire, c'est le groupe social privé communautaire qui décide. Donc, il va, en fonction des besoins, il va décider que dans certains cas, c'est des centres de loisirs qui reçoivent. Tu sors du centre de loisirs, puis il y a des boîtes à la sortie. Puis là, c'est des boîtes avec des fruits, des légumes, des boîtes de conserve ou d'autres choses. Et puis, il y a des gens qui se servent tout simplement. Ça peut être aussi peu que ça, mais là, quand c'est dans les écoles, ça sera certainement pas dans les centres de loisirs, mais ça peut être deux collations, ça peut être un petit déjeuner, ça peut être du lait, ça peut être... Donc, c'est vraiment, c'est formaté par le centre scolaire en fonction des besoins. Un jour, il y avait une étude qui avait été faite sur la distribution de lait dans les écoles. Puis, il se rendait compte que 95% des enfants qui recevaient le petit berlingot de lait n'en avaient pas besoin dans leur apport alimentaire. Et quelqu'un avait posé la question, est-ce que, donc, on devrait couper le programme? Il dit, ouais, mais c'est la façon d'atteindre les 5% qui en ont besoin, qui est cette distribution-là. Puis, pour éviter ce genre de truc impossible, incroyable, de 95% de gaspillage, ben, il faut que tu laisses le centre communautaire décider. Mais est-ce qu'ils ont les critères pour le faire? Est-ce qu'ils sont dans l'école? Est-ce qu'il y a une bonne collaboration avec l'école? Tout ça, généralement, on ne le sait pas.
Ouais, mais clairement, ça va prendre la souplesse dans la façon dont le programme va être appliqué. Moi, j'ai connu l'époque où on distribuait des berlingots de lait dans nos écoles primaires, là. Moi, j'ai vécu cette époque-là. L'autre chose, je me permettrai un commentaire sur la stratégie du gouvernement fédéral actuellement, du gouvernement Justin Trudeau. Défeuiller comme ça les mesures contenues dans le budget, c'est bien honnêtement, c'est malaisant. Et le gouvernement de Justin Trudeau fait souvent des reproches aux conservateurs, mais là, Justin Trudeau fait exactement ce qu'ont fait les conservateurs de Stephen Harper en 2009. C'était Jim Flaherty qui était ministre des Finances. Puis quelques semaines avant le dépôt du budget, parce qu'ils y connaissaient des difficultés, ils étaient bas dans les sondages, ils ont décidé comme ça d'annoncer avant le dépôt officiel du budget des mesures pour charmer l'électorat, n'est-ce pas? Pour redorer leur blason auprès de l'électorat.
Mais on dirait qu'on
c'est plutôt ordinaire.
Est incapable d'avoir une vision d'ensemble. Tu sais, je prends le logement, là. OK, on annonce la charte, le bail. La Ville de Montréal nous annonce rien de contraignant, un truc qui va, une subvention à un organisme pour demander aux gens d'inscrire de ce registre un peu bidon, là. Mais tu sais, il n'y a pas de discussion globale sur comment on crée des logements, comment on protège les... Là, c'est les enfants, c'est vrai qu'on doit pas les laisser sans manger dans les écoles. Mais OK, mais on fait ça comment?
Ben, c'est parce que le gouvernement fédéral t'organise une
même. On écrit ça sur le coin d'une table en disant, m'a donné 200, 400 millions, puis voilà.
C'est ça. Mais le gouvernement fédéral a une partie de sa... Une grosse partie de la gestion du gouvernement fédéral correspond à celle d'un club optimiste. C'est-à-dire, c'est un ministre qui se promène puis qui fait des dons. Moi, un ministre que j'aime beaucoup, c'est Randy Boissonneau. Je l'adore. Je trouve que c'est un des ministres les plus dynamiques du Canada. C'est un francophone de l'Alberta. Maintenant, il y a plus de francophones en Alberta qu'au Manitoba. Il se promène partout. Puis, il est pas content de savoir que lui, comme ministre, il peut très peu aider. Ce qu'il peut faire, parce qu'il n'y a pas les pouvoirs sont dans les provinces, c'est donner de l'argent à des groupes. Tiens-toi, si. Il a donné récemment de l'argent à des infirmières à travers le Canada qui ont le statut d'infirmière, mais qui ne peuvent pas pratiquer parce que, pas réussi à passer l'examen. Après ça, pour les Autochtones, la réintégration en emploi pour les Autochtones. Après ça, pour les travailleurs au sein des demandeurs d'asile, une petite subvention. Tu vois, c'est toutes des petites subventions comme ça qui sont loin d'atteindre la cible au complet, qui sont bien orientées, sont bien décidées. Il y a un vrai besoin à cet endroit-là, mais c'est du saupoudrage.
On s'arrête là-dessus et après, on va parler de cet autre sujet, c'est-à-dire une famille nigériane formée d'anges gardiens qui font face à l'expulsion.
La commission Normando-Ferrandaise.
Il y a toute une mobilisation pour éviter l'expulsion d'une famille nigériane formée d'anges gardiens qu'on a bien connus, bien sûr, durant la pandémie. Et là, on se dit que ce sont des événements malheureux qui se reproduisent souvent. Est-ce qu'on peut faire ça autrement, Luc?
Écoute, j'ai des gros doutes. Pour une fois, j'ai pas de réponse là. Puis je vais exposer les faits pour qu'on puisse prendre la décision ensemble en tant que comité qui va décider de l'avenir des demandeurs d'asile à trois. Bon, c'est une famille qui fait une demande d'asile. Elle est refusée. On se rend compte que la famille est travailleur. Ils sont très travailleurs, sont intègres. La mère a appris le français. Il y a trois enfants. Un qui était né avant d'arriver, deux qui sont nés sur place. Les enfants vont à la maternelle et l'école française. Bon, tu te dis, c'est à peu près ça qu'on veut dans la vie, hein? Des immigrants qui arrivent, qui travaillent, qui s'intègrent dans des domaines où l'autre des Québécois veulent pas travailler, puis qui apprennent le français, etc. Alors, jusque-là, tu te dis, ben, acceptons-les. Tu sais, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que tout ça, ce sont des critères d'immigration, ce que je viens de nommer là. T'es à l'étranger, tu fais une demande d'immigration, tu dis, je vais apprendre le français ou je connais bien le français, je veux travailler dans tel domaine, etc. Quand tu fais une demande d'asile, c'est pas pantoute la même affaire. Tu fais une demande d'asile parce que c'est dangereux là où tu es. Et c'est sur cette base-là qu'on va décider si oui ou non t'es accepté. En ce moment, il y a 7000 Haïtiens dont on a refusé la demande d'asile au Québec. Ce sont des gens qui sont passés par le chemin Roxham. D'ailleurs, cette famille-là aussi est passée par le chemin Roxham. Et ces gens-là, une fois à l'analyse de leur dossier, on dit, mais je regrette, madame, monsieur, la région d'Haïti dont vous venez n'est pas du tout soumise à la violence. Et donc, on refuse votre demande de réfugié. Mais sauf que ces 7000-là, on a décidé de pas les renvoyer en Haïti en ce moment parce qu'on se dit, ouais, en ce moment, renvoyer du monde en Haïti, c'est quand même le bout du bout. Je veux dire, avec les gangs qui gèrent les villes, en particulier Port-au-Prince, ça serait inhumain de les renvoyer. Alors, c'est toujours ça. Vous êtes arrivé sur une demande d'asile. Il faudrait que vous retourniez dans votre pays pour faire une demande d'immigration en bonne et due forme. Elle serait sans doute acceptée, et c'est arrivé souvent, hein, que des gens partent puis reviennent. Mais tu as trois enfants à ses bras, tu retournes dans un pays, tu n'as rien là-bas, pour des raisons administratives. Tu dis, ben, pour des raisons administratives, il faudrait que je retourne là-bas, que je refasse ma demande, que je revienne. Pourquoi ne pas les accepter sur le champ? C'est la question qui est posée.
Ouais, c'est une mobilisation aussi importante autour de ce couple de préposés aux bénéficiaires qui travaillent avec des personnes lourdement handicapées. C'est précisément pour cette raison, c'est-à-dire que ce sont des anges gardiens qui font une grande différence dans la vie de plusieurs familles montréalaises et ils sont vraiment en réel danger. Puis tu as bien expliqué la situation, Luc. Le mari est chrétien. Et au Nigeria, les chrétiens sont victimes de chasse aux sorcières. Là, ils sont persécutés. D'ailleurs, je disais que, et bravo à la presse d'ailleurs d'avoir traité cette affaire, 82% des chrétiens tués dans le monde en 2023 à cause de leur foi ont été tués au Nigeria. Déborah, qui est la maman, racontait qu'on a tenté de kidnapper leur bébé avant leur fuite vers le Canada. Alors, c'est un couple vraiment exemplaire. Et je tiens à souligner que sa formation en tant que préposé aux bénéficiaires, elle l'a payé de ses poches, à ses frais. Elle est allée au privé. Elle dit, on a reçu 3 mois seulement d'aide sociale. Ils n'ont pas reçu de PCU durant la pandémie parce qu'ils se sont mis rapidement au travail. Alors, ils sont très bien intégrés à la société québécoise. Les deux plus jeunes enfants nés en sol canadien parlent français, vont à la garderie, à l'école française. Alors, pour eux, c'est Déborah qui le disait, nous expulser, c'est l'équivalent de la peine de mort. Là, on parle d'une expulsion cette semaine. Et il y a une chose que peut faire le ministre Mac Miller, c'est utiliser son pouvoir discrétionnaire pour empêcher cette expulsion. Et si j'étais Mark Miller, je poserais ce geste pour éviter que cette famille soit mise en danger en retournant au Nigeria. Et le message que le gouvernement fédéral pour envoyer. C'est, écoutez, vous avez contribué à faire une différence durant la pandémie. Le Québec les a, rappelez-vous, nos anges gardiens, puis on les a tellement remerciés, valorisés. Alors, ça enverra un message tellement contradictoire que d'autoriser leur expulsion. Alors, Mark Miller peut faire une différence et j'espère, comme ministre, qu'il va la faire, cette différence. Et j'espère aussi que le Québec va lever la main. Je ne sais pas si Christine Fréchette, ministre d'Immigration, a téléphoné à son vis-à-vis pour s'assurer que cette famille ne soit pas expulsée, mais si elle le faisait, elle rendrait un grand service à tous les anges gardiens qui ont donné énormément durant la pandémie.
Mais moi, je pense qu'en termes de messages contradictoires, Nathalie, il faut en regarder un autre. On peut pas dire du lundi au vendredi, il y a trop de demandeurs d'asile, puis le samedi, dire ben, on va leur donner un permis d'immigration parce que c'est du bon monde. Parce que il y a du bon monde là, qui sont prêts à, qui souffrent dans leur pays, là, qui sont dans des situations extrêmement difficiles, Afghanistan, Syrie, une partie de l'Irak, Colombie, Venezuela, etc. Il y en a des centaines de milliers, il y en a des millions et des millions.
Mais le gouvernement Trudeau devait amnistier les illégaux.
Ouais.
Et il a renoncé, en tout cas aux dernières nouvelles, il l'a pas fait. Là.
C'est sans doute ce qui va se passer. Si jamais ils étaient menacés d'expulsion, une des possibilités, c'est qu'ils disparaissent dans la nature. Là. C'est ce qui s'est passé dans bien des cas. Puis la police canadienne court pas après. Là. Donc, il y en a 600 000, puis il a renoncé. Mais parce qu'il faut voir qu'il y a un effet réseau. Parlons système, OK? Si tu parles individu, personne, oui, on les garde. Personne va s'asseoir devant cette femme-là puis dire, ben non, on te renvoie. Non, personne. Maintenant, parlons système, parlons statistique. Ben, pourquoi? Ça marche pas par personne, ça marche par réseau. Si une personne rentre au pays, dit, mais moi, je suis rentré comme demandeur d'asile, après ça, j'ai fait régulariser ma position parce que j'avais une bonne job, ben, crée-moi que ça va se passer à des milliers d'exemplaires. C'est ça qui se passe. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, il y a Internet, il y a des réseaux sociaux, t'es plus obligé d'envoyer une lettre, t'envoies un courriel à ta famille, dis, ça marche. Le système te permet de le faire. Et ça va bloquer l'arrivée des vrais réfugiés. Alors, voilà. D'un point de vue systémique, il y a un problème. D'un point de vue personnel, on se dit, on doit les accueillir à bras ouverts. Moi, j'ai pas la solution.
Ouais, ben, en fait, quand tu dis que la ministre peut pas, d'un côté, affirmer qu'il y a trop de demandeurs d'asile et prendre la défense de cette famille, cette famille a une particularité, c'est que 2 enfants sur 3 sont nés au Canada. Ils sont nés ici. Et d'ailleurs, l'agence des services frontaliers qui a proposé à la famille de séparer de ses 2 plus jeunes enfants en disant, vous partez avec votre plus vieux au Nigeria, là, retournez là-bas, puis les 2 jeunes enfants, vos 2 plus jeunes, bien, confiez-les à qui voudra les garder. Voyons donc, tu parles d'un manque de jugement,
C'est systématique, Nathalie, parce que c'est ça que la loi dit. La loi dit, si on est au Canada, si on est Canadien, vous, votre demande est refusée, vous devez repartir. C'est la loi.
Vivement plus d'humanité dans la façon dont on gère des cas comme ceux-là.
Non, mais moi, j'ai connu l'époque où
un cas humanitaire.
Ils allaient se cacher dans des sols d'église.
Ben oui.
Qui étaient accueillis parce que c'était comme un havre de paix, puis c'était un sanctuaire, puis personne n'osait. Là. Mais il va en avoir de plus en plus de ces cas de gens qui lèvent la main, qui sont ici depuis 1 an, 2 ans, qui ont 2 enfants nés ici.
Ben, il y avait une belle famille chilienne qui était interviewée par Radio-Canada il n'y a pas longtemps.
Je me souviens de ça. Merci à tous les deux. On vous retrouve demain.
C'est 23.